Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, ben, cette semaine, nous allons avoir un livre qui s'intitule « Verte Dordogne » et qui a été édité, je pense, en compte d'auteur en 1972 par Denise Pigot, La Bracherie. Alors donc ce livre « Verte Dordogne », évidemment la Dordogne, c'est la rivière qui a donné son nom au département. Alors, sont les souvenirs avant la guerre de 14 jusqu'à la libération de 14, de 1918, je veux dire, voilà, par deux petites filles qui deviendront évidemment des adolescentes. Alors, il y a des souvenirs. Alors voici par exemple, souvent Justine, toujours Dolente, alors Justine c'est là, on l'appelle Tine, c'est beaucoup plus court, et c'est une servante qui est là à domicile. Alors souvent Justine, toujours Dolente, venait nous retrouver pour cueillir un brin de persil, les poings sur les hanches, elle marchait en se dandinant, les pieds en dedans, elle ne pouvait s'empêcher de déraciner un poireau et accroupie au pied d'un prunier, se mettait en devoir de l'éplucher soigneusement, puis elle le croquait tout cru en le trempant dans une belle scie de gros sel qu'elle tenait dans le creux de sa main. Elle semblait se délecter et je l'aurais volontiers imité, mais ma grand-mère veillait, elle a admonesté Tine en patois. Alors, on est en français. Demain, vous vous plaindrez de votre estomac. Voilà. Alors le poireau avec du sel, ça, j'avoue que je ne connaissais pas. Bon. Alors, rien n'y faisait, je suppose que cette compatriote de Jacques Croquant, qui se disait fille naturelle d'un comte de Montignac, avait pris des changenages, des coutumes, des cultivateurs de la région, puis retenus au champ par leurs travaux, déjeunaient souvent d'un gros morceau de pain, de seigle, agrémenté d'oignons ou de poireaux crus. Alors, l'oignon, c'est bon, avec un peu de sel, c'est bon. Le poireau, comme je disais tout à l'heure, je ne connaissais pas, mais j'essaierai. La frotte dut cependant avoir la prédilection de toutes les générations du Périgord et consistait en une croûte de pain, de seigle, frottée vigoureusement d'une gousse d'ail. Mon palais de petite vitre à cases n'y était pas indifférent, mais hélas, lorsqu'en cachette j'avais réussi à en savourer une, mon haleine me trahissait, ma mère, ma tante, ma sœur s'écartaient de moi, tu empestes la frotte, me disait-il. Voilà, alors ça, la frotte, c'est bon, c'est ce qu'on mangeait quand on était jeune. Voilà, alors, je continue un peu la lecture donc, de ce livre qui s'intitule « Verte Dordogne ». Et qui se, comment je peux dire, et donc l'histoire, c'est deux petites filles qui habitent Tours, père et médecin, et là, elles habitent Tours et ils viennent tous les ans chez leur grand-mère à Vitrac, sur le bord de la Dordogne. Alors Vitrac, c'est un peu la plage de Sarlat, mais enfin ça se trouve quand même à 6 km que les gens de l'époque faisaient souvent à pied. Et puis il y a eu un car, mais les mamans qui amenaient le casse-croûte, eh bien, venaient à pied. Alors, à cette époque, donc je reprends la lecture du livre, à cette époque, la partie centrale d'une ferme comportait une vaste étendue de terre battue en plein soleil. On appelait ça loussol, c'est-à-dire le sol, tout simplement. Alors, à l'une de ses extrémités étaient entassées après la moisson les herbes de céréales qui formaient deux gerbiers, plus ou moins haut, suivant l'importance de la récolte. On entendait à l'époque des grosses chaleurs, en particulier le mois d'août, pour procéder au battage. Alors, sous un soleil brûlant, les gerbes étaient déliées et étalées régulièrement dans le sol, où les métayers, en compagnie de leurs enfants, parfois d'un ou plusieurs voisins, s'alignaient côte à côte, un fléau à la main. Puis, à tour de bras, en cadence, ils frappaient les épis pour en détacher le grain. Ils se déplaçaient d'un pas rythmé, sous les coups de fléau de droite à gauche et inversement, à la façon des crabes. C'était un travail épuisant, à peine vêtus, les hommes surtout de torse nu, les femmes en chemise, coulissées aux épaules et retenues à la taille par leur quotidien d'indienne. La tête de chacun préservée du soleil par le grand chapeau de jonc. Parfois l'arbitre, alors l'arbitre, c'est un oncle de ces petites filles qui font la narration en quelque sorte. Ne résistez pas à l'envie de se joindre à eux. Ce n'est qu'après la guerre de 14-18 qu'on fit appel à la batteuse automatique, monumentale et bruyante qui avait l'aspect d'une locomotive. Le blé, le seigle ou l'avoine, suffisamment battu, Alors, on va le, bien sûr, été rangé. Alors, on appelait ces grosses machines, je crois, des locomobiles. Voilà, j'arrive à dire. Alors, en continuant un peu plus loin, le plus clair des revenus d'une métairie comme la nôtre provenait de la vente du tabac. Et oui, le tabac, même au début du siècle dernier, c'était quand même un revenu important. Alors, c'était assez aléatoire, évidemment, ce dernier étant sensible comme la vigne à la moindre bourrasque, surtout lorsque celle-ci s'accompagnait de grêle. Cette culture demandait d'autre part des soins vigilants sous le contrôle d'un fonctionnaire du gouvernement qui passait à intervalles réguliers pour vérifier l'implantation. Alors, ça s'est fait même dans les années 80, il y avait toujours un contrôleur qui passait, et je crois qu'on mettait un piquet avec une boîte de conserve à l'envers, et à l'intérieur, ben, il y avait le nombre de pieds qui étaient plantés. Alors, il vérifiait bien sûr notamment le nombre de feuilles à chaque pied. Il y avait une quantité à ne pas dépasser. Cela nécessitait donc une main-d'œuvre attentive et on s'explique l'affolement de chacun à l'approche d'un orage. La récolte avait lieu en septembre, les pieds devaient sécher, suspendus de bas en haut dans un hangar ou un autre abri. Ben oui, en principe, les hangars qu'on voit un peu partout, d'ailleurs en campagne, ben ma foi, se servaient principalement à sécher le tabac. Mais il y avait de la place en dessous, évidemment, et c'était souvent bien encombré. Alors, convoqué par l'entreposeur de l'État dans le courant de l'automne, Firmin se rendait à Sarlat afin de livrer sa cargaison, entassée dans la charrette de la ferme, brinque-ballante, à la cantate, à la cadence du pas de Camargo. Alors, Camargo, c'est le cheval. Le cheval de la ferme, un peu vieux d'ailleurs. Alors, pour remplir cette fonction officielle, il endossait sa chemise blanche. Alors, donc, celui qui livre, bien sûr, le tabac, Blanche découvra à l'inverse de son épouse une gargamelle osseuse, chapeau plat, noir, 2G, costume assorti. C'était auparavant abandonné aux mains de Thomas, le sonneur, coiffeur et barbier à l'occasion et qui opérait devant sa porte grâce à ses soins, les piquants des joues et du menton, disparaissait en un clin d'œil. Voilà, bien sûr, il faut aller à Sarlat à livrer le tabac. Alors, je crois que, comment je peux dire, on ne fait plus beaucoup de tabac maintenant, mais je pense que les locaux, qui sont quand même vastes, vont servir, je crois, pour le cinéma. Voilà. Alors, bien sûr, il y a bien sûr la visite de la famille. Alors, accroché au mur de chaque côté de la haute cheminée d'un marbre blanc, deux immenses photographies en buste de nos ancêtres. Elles dataient de la fin du siècle dernier. Ce fut la mode. À droite, le portrait de la tante Lécuyer, coiffée de la petite capote déselégante de sa jeunesse. À gauche, celui de l'oncle Henri Lasserre de Monzy. Alors, il est mort en 1900. J'aimais contempler le visage empreint de bonté de ce beau vieillard, les yeux lumineux et pétillants d'intelligence. Ses yeux qui avaient un jour cessé d'y voir et que Notre-Dame de Lourdes lui avait rendu dans tout leur éclat. Ma mère évoquait souvent en notre présence un miracle raconté par Henri Lasserre lui-même dans son livre sur Notre-Dame de Lourdes, et nous faisant admirer dans l'album de famille des pages où étaient groupées les photos de sa fille, la chère cousine Marthe et les petits-enfants. Alors, les livres d'Henri Lasserre, évidemment, on en reparlera certainement un de ces jours. Alors, évidemment, il y a le château de Montfort qui se trouve tout près. Alors, voilà ce qu'on dit sur ce château. Au début de l'année 1913, le bruit courut dans tout le pays que Montfort était devenu la propriété de Jean Galmot. Alors, Jean Galmot, aventurier, disait les jaloux. Il était considéré sur la Riviera comme un journaliste étrange, turbulent, ambitieux. Racontait qu'un jour de 1906, il était parti à la recherche de l'or dans une forêt, une rivière, une crique que possédait son beau-père dans la Guyane française. L'exploitation de ce métal précieux et celle du bois de rose furent pour lui le point de départ d'une fortune colossale qui, au bout de 5 années, se chiffrait à des centaines de millions. Élu député de Cayenne, idolâtré des Noirs, il avait su au cours de ses fulgurantes apparitions dans la capitale hypnotiser le tout Paris par une éloquence et son regard de braise. Sa débordante activité s'était étendue aux lettres. Il avait fondé une revue, La Rose Rouge, très difficile à trouver. Alors, commandité une maison d'édition où il fait publier son roman « Cadet Transhistoire ». Sa fin fut tragique, empoisonné par ses adversaires politiques. Il devait mourir dans sa chère Guyane en pleine connaissance. Il avait reçu les derniers sacrements assistés de Monseigneur de Laval qu'il avait mandé auprès de lui. Ben alors, bien sûr, on reparlera. Je crois qu'on a déjà parlé de Jean Galmot, mais un jour, on reviendra sur cette étrange histoire. Alors, quelle étrange histoire, ce livre d'effrayant toutes les conversations du pays, lorsque Jean Galmot vint en coup de vent à la veillée de la guerre, installer sa femme et son fils débile, mental, dans notre voisinage. Alors, après avoir ensorcelé les Noirs, il entreprit la conquête des habitants de Montfort, qui ne jurèrent bientôt que par lui. Alors il donnait entre autres, il arrivait en avion, hein, sur la plaine de bord, il y a toujours un terrain d'aviation, et il arrivait sur la plaine de bord, où l'attendaient quand même les gens du coin, et il arrivait en avion. Alors, à la tombée du jour, dans la cour du château, tante Jeanne, curieuse comme une belette, un beau jour que nous y a mené les 6 km aller-retour, que nous devions accomplir à pied, ben oui, à l'époque, avant la guerre de 14, ben, on marchait quand même beaucoup à pied. Ne les farouchez pas, malgré ses hauts talons, et les deux S nous accompagnaient. Je revois encore devant moi l'autre fastueux accompagnant ses invités avec infiniment de courtoisie, long, sec, brun, les joues creuses, visage basané, barré d'une forte moustache, le regard de feu. Simone et moi regardions un bouche bée, Charlotte de S, que nous admirions parce qu'elle était, en quelque sorte, ben, elle était notre aînée, affirmait sentencieusement qu'il possédait une grande séduction. Madame Galmot recevait assise sur un bas, impassible et muette. Je crois qu'elle parlait surtout anglais. Ses cheveux jaunes d'œufs, c'était rare à l'époque, cachés en partie sous un polo de laine blanche qu'elle portait. Elle portait une vaporeuse robe d'azur. Voilà, alors, bien sûr, il va y avoir les projections. Alors l'assistance réagit peu aux scènes bouffonnes qui se déroulaient sur l'écran. C'était si nouveau, les paysans étaient déconcertés. Quant à moi, bon public, je me croyais obligé d'étouffer mes éclats de rire pour ne pas me faire remarquer. On revint sous un ciel étincelant d'étoiles et toute la nuit je rêvais de dames aux cheveux jaunes, de lessiveuses. Alors les lessiveuses, c'était les femmes qui faisaient la bugade, c'est-à-dire qui s'occupaient du linge et qui le faisaient bouillir. On les appelait les lessiveuses, bon bien sûr. C'était plus facile. Les lessiveuses pâtissent de Max Linder entremêlés dans des exploits incohérents. Alors, bien sûr, il va y avoir les visites à Sarlat pour les achats, alors surtout le samedi, puisqu'il y a le marché qui existe toujours d'ailleurs sur le samedi à Sarlat. Alors, sur la traverse, l'atmosphère s'apaisait. Alors, la traverse, c'est la rue principale de Sarlat. Alors, quelques ruelles tranquilles qui conduisaient vers la cathédrale et le marché sur les pas de leurs portes énoiseuses. Et oui, ne perdaient pas leur temps, c'était presque tout de petites vieilles voûtées, le foulard noir enfoncé jusqu'aux sourcils, assises sur des chaises basses, armées de légers marteaux. Elles brisaient la coque des noix contenue dans un grand sac pour en extraire l'amande comestible. Oui, je me rappelle avoir, un apport pour les gens de Sarlat, je me rappelle avoir cassé les noix pour mes parents. Alors les langues allaient aussi vite que les marteaux, s'interpellaient entre voisines, d'un côté de la rue à l'autre. Je me serais attardé à regarder cet étrange spectacle si je n'avais qu'une paire de vues. Ma grand-mère arrivait au marché, cette dernière se mettait en quête de salades rares à Vitrac à cause de la sécheresse et aussi de poulets, car ceux de la ferme ne pouvaient pas suffire à nos appétits démesurés. Voilà, alors, on va continuer un peu, bien sûr, il va y avoir la visite du président de la République de Poincaré. Alors, là, il y a une tente, ben, ma foi, qui paraît un peu au lit, mais qui va pour la circonstance, mais ma foi, se lever un peu plus tôt. Et puis, dans la suite présidentielle, il y a les ministres, et parmi ces ministres, ben, il y a également de Monzy. Alors, Anatole de Monzy. Voilà, alors je viens vous voir après déjeuner. Le défilé s'achevait dans un grand tourbillon de poussière. La route était rendue au Vitracois. Alors ébahissement, leur félicité, leur juron aussi. Les coques et les pots du voisinage gardés à l'abri la veille au soir, époustouflés de se recouvrir leur liberté, se jeter en titubant dans nos jambes. Malgré ce bois, remerciement au péto. Alors le péto, ben, c'est un des propriétaires de la... un des deux restaurants de Vitrac. Voilà. Alors, Voilà, voilà ce qu'on nous dit. Alors, dans l'après-midi, cousin Anatole vint, comme il l'avait annoncé, passer quelques heures sur la terrasse. Je le vois encore debout, en claudiquant, mais il avait eu un problème de l'endo en étant bébé. Il tenait à la main un calepin qui ne quittait guère, sur lequel il avait noté quelques incidents piquants de son voyage, et se plaisait à les commenter devant la famille au grand complet. Je me souviens qu'il était souvent question de partout, mais cela ne présentait aucun intérêt pour des gosses de notre âge, autant plus que par moments le ministre parlait à demi-voix ou chuchotait, en nous regardant avec méfiance. Certains propos grivois, je suppose, n'étaient pas pour nous. L'événement de la matinée suffisait à alimenter nos bavardages. Il nous fut donc facile de nous éclipser pour rejoindre notre domaine d'élection dans la Charmille en compagnie de Follette. Alors Follette, c'est une petite chienne qui considérait avec hostilité un intrus dans le cercle familial. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais arrêter là. Donc, ce livre de Denis Pigot, La Bracherie, Verte Dordogne, qui se situe à Sarlat et à Vitrac. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.